c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, en el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Cette semaine, nous allons choisir de vous parler d'un sujet très controversé, très d'actualité, pas très gai, sur les migrations. Ensuite, nous allons vers l'Équateur, la Colombie. Et nous allons diffuser aussi un reportage envoyé par Radio Nationale d'Espagne sur l'immigration ou l'émigration des femmes en Espagne. Ça date d'un moment, gardé dans les archives d'OPEAL. Alors, Béatrice va nous parler des problèmes entre les États-Unis et le Mexique, n'est-ce pas?
Oui, l'incertitude des migrants aux portes des États-Unis. L'administration Biden a mis en place vendredi 12 mai de nouvelles restrictions au droit d'asile après l'expiration d'une mesure leur permettant de verrouiller leur territoire. L'afflux redouté de migrants ne s'est pour l'heure pas produit, tandis que les nouvelles mesures créent du désespoir et de la confusion chez les réfugiés. À Tijuana, des milliers de réfugiés rassemblés à la frontière se retrouvent désemparés. Ces dernières semaines, plus d'un millier de personnes ont transité par un camp de fortune, sans accès à l'eau ni à des sanitaires, installés sur une mince bande de terre, coincée entre la double barrière frontalière qui sépare Tijuana et San Diego. La plupart de ces migrants racontent avoir fui la violence des cartels, la guerre, l'instabilité économique et politique. Dans le No Man's Land entre Tijuana et San Diego, des bénévoles distribuent des bananes, de l'eau et des couvertures. Il est de notoriété publique que les infrastructures à la frontière mexicaine sont insuffisantes et inadaptées, notamment pour les mineurs isolés, tout comme les moyens de fonctionnaires chargés d'étudier les demandes d'asile.
Oui, mais nous allons parler depuis le Mexique, la Ciudad Juárez, n'est-ce pas?
Oui, la Ciudad Juárez. Les images faisaient redouter le pire aux autorités états-uniennes et mexicaines. Des dizaines de milliers de migrants se massant à la frontière après avoir traversé le Mexique, en provenance d'Amérique centrale ou de bien plus loin encore, pour passer aux États-Unis. Cette fois, ils n'allaient pas s'installer dans les refuges de la ville frontalière de Ciudad Juárez, mais se dirigeaient directement vers le mur qui sépare les deux pays voisins, avant l'expiration de normes migratoires nord-américaines. Ces files de gens, rompus de fatigue et assommés de chaleur, qui se massaient devant cette barrière de métal de 6 mètres de haut, avaient déjà disparu le lendemain. Le changement de règles migratoires a provoqué l'afflux de migrants devant les portes du mur frontalier. Les migrants doivent demander l'asile via une application mobile dont le service est saturé. Dans les refuges comme dans un campement improvisé non loin de la frontière à Ciudad Juárez, tous les migrants gardent un œil sur leur téléphone. Il y a les chanceux et ceux qui sont désemparés, désespérés. Les migrants qui étaient devant les portes du mur frontalier n'ont pas disparu. On les croise toujours errant dans les rues de Ciudad Juárez.
Oui, nous allons faire une petite pause. Alors, on peut dire aussi que Joe Biden face à une crise migratoire majeure. Pourquoi ? Parce qu'en octobre 2022, la Maison-Blanche a lancé un programme d'accueil des Vénézuéliens par année avec un permis de travail temporaire. Le nombre de migrants de ces pays a baissé de façon spectaculaire à la frontière. À la lumière de cette expérimentation, il a été décidé d'étendre ce dispositif à d'autres pays, donc Cuba, Haïti, Nicaragua. Les États-Unis s'engagent à poursuivre le programme visant à accepter jusqu'à 30 000 migrants chaque mois venant de ces quatre pays. Vous voyez, donc, c'est ça que peut-être Béatrice peut finir son papier.
Oui, on croise les migrants toujours errant dans les rues de Ciudad Juárez, lavant les voitures occupant maisons abandonnées. Selon le gouvernement mexicain, il sera environ 10 000 à Ciudad Juárez et plus de 26 000 au total le long des 3 300 km de frontière.
Una rancherita que libre que me decía te voy a hacer los calzones como los que usa el vaquero. Voilà. Mais je voudrais ajouter quelques mots sur migration forcée et irrégulière du nord de l'Amérique centrale dans des contextes de violence. Les processus de migration transfrontalière et irrégulière ont une longue histoire et sont liés à l'émergence et à l'expansion du marché capitaliste et à la formation d'États nationaux. Ces migrations augmentent depuis la seconde moitié du XXe siècle et sont le résultat de l'accroissement des inégalités et de la dynamique internationale d'appauvrissement. Dans la production de ces migrations, un rôle non moins pertinent fait allusion au besoin des mains d'œuvre des pays du Nord. Sur la scène mondiale, le continent américain, donc des Amériques, fait partie de régions comptant de nombreuses populations à statut migratoire. Une partie considérable de ces populations migrantes des Amériques se rend aux États-Unis d'Amérique dans des conditions irrégulières et à la recherche de salaires réels bien supérieurs à ceux de leurs États nationaux d'origine. Voilà, donc ça nous arrive de l'Équateur. C'est une agence d'information qui s'appelle Alter Info. Mais c'est un autre point de vue sur la situation dans notre continent latino-américain. Et nous allons passer à un autre sujet plus sympathique sur l'Équateur. N'est-ce pas, Béatrix? Il y a des...
Oui, l'Équateur obtient une réduction de sa dette pour protéger les îles Galapagos. Quito, la capitale, a conclu une opération inédite par son ampleur qui consiste à annuler de la dette en échange de la protection de la biodiversité de l'archipel classé au patrimoine mondial. C'est une technique de financement qui pourrait donner de l'oxygène à un nombre croissant de pays en situation de surendettement. L'Équateur a annoncé avoir obtenu une réduction de sa dette en échange de son engagement à financer la conservation des Galapagos, un archipel inscrit au patrimoine mondial au fait de sa biodiversité pour un montant de 414 millions d'euros. Des investisseurs ont accepté de céder des obligations par crainte que la situation financière et politique du pays ne se détériore davantage. Pour bénéficier de ces allègements de la dette, il faut que les États identifient des projets viables de conservation. Le gouvernement équatorien avait annoncé l'extension d'une réserve maritime à Galapagos, portant la superficie protégée à 200 000 km², soit plus du tiers du territoire français. L'archipel abrite l'une des biodiversités les plus riches de la planète, des iguanes, des lions de mer, des espèces migratoires comme le requin baleine ou des tortues de mer sont en danger d'extinction.
Oui, et au sujet des tortues, justement, je relevais que Islas de los Galápagos, en espagnol, signifie île des tortues de mer. Et Galapagos, c'est un archipel, en fait. On pense que c'est une île. Non, c'est un ensemble d'îles. Archipel du Pacifique à l'ouest de l'Équateur, dont il dépend depuis 1832. Il y a 8000 km², 30 000 habitants. C'est, comme tu viens de le dire, Béatrix, c'est une réserve de faune rare. Les Galapagos sont considérés comme l'une des destinations majeures au monde pour l'Observatoire de la faune. Provenance de l'Équateur, l'archipel se trouve à près de 1000 km au large de ses côtes. Son territoire isolé abrite une faune et une flore variées, dont nombre d'espèces sont uniques. Charles Darwin s'y est rendu en 1835 et ses observations sur les espèces de la Galapagos lui ont par la suite inspiré sa théorie de l'évolution. Voilà donc ce qu'on pourrait dire de Galapagos. Tout simplement, je vais citer ses îles principales, Baltra, Bartolomé, Darwin, Genovesa, Isabela, Santa Fe, Santiago. Voilà donc ce qu'on peut dire de ces îles, de cet archipel Galapagos.
guitarrita, ay, tiene boca y sabe hablar. Está mi negra guitarrita, ay, tiene boca y sabe hablar. Solo le faltan los ojos para ponerse a llorar. Solo le faltan los ojos para ponerse a llorar. Sabe hablar, solo le faltan los ojos para ponerse a llorar. Solo le faltan los ojos para ponerse a llorar.
Musique des Andes, voilà, donc de l'Équateur, justement. Et n'oublions pas qu'il y a les semaines au pluriel des Amériques, de l'Amérique latine et des Caraïbes en France. Depuis le 25 mai jusqu'au 10 juin, il y a différentes activités un peu partout en France, justement. Et nous avons repéré quelques activités aussi à Bordeaux très intéressantes. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur, vous faites Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes sur Internet et vous avez toutes les activités. Évidemment, vous êtes à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler d'un sujet très tragique presque en Colombie, n'est-ce pas Béatrice?
Oui, avec les aveux d'un ancien ex-paramilitaire. Salvatore Mancuso a témoigné des crimes des années 1990-2000. Un homme qui, de sa cellule de prison aux États-Unis, confesse ses crimes passés en Colombie, confronté aux horreurs de son histoire et aux compromissions des élites, l'ancien chef paramilitaire s'adressait aux magistrats et à un groupe de victimes et a détaillé les complicités dont les sanguinaires milices d'extrême droite ont bénéficié dans les années 1990-2000. Par où commencer ? Le terme « complicité » est faible pour décrire les liens entre les forces armées et les milices d'extrême droite qui menaient des opérations conjointes et éliminaient ensemble les opposants. Les paramilitaires ont contribué à la pratique dite des « faux positifs » en assassinant des civils que des militaires avides de primes et de galons faisaient ensuite passer pour des guérilleros morts au combat. L'ex-paramilitaire Mancuso a affirmé que le président colombien actuel, Gustavo Petro, et son ministre des Affaires étrangères, Alvaro Leyva, figuraient sur la liste des gens à abattre. Les aveux de Mancuso ont éclaboussé plusieurs personnalités politiques colombiennes, à commencer par Alvaro Uribe, qui était un ancien président.
Oui.
La guérilla a toujours été présentée comme la responsable de la violence, quand toutes les études confirment que les paramilitaires ont été autrement plus sanguinaires.
Voilà, donc ça confirme justement, ils ont fait des recherches, peut-être dans des archives, et ils ont trouvé que les paramilitaires alimentés par les grands patrons des terres, les terratenientes, ont commis beaucoup plus de crimes. Mais par rapport à la guérilla elle-même. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir, pas seulement en Colombie, mais dans d'autres pays avec l'extrême droite.
Cuánto te recuerdo, te ruño del alma, mi patria querida, donde yo nací. Te canto hoy
aunque estoy tan lejos, añorando siempre tu música alegre, tu sol tropical. Colombia, mi país de ensueño, mi pequeño mundo, mi diosa sin par.
Voilà donc de la musique colombienne, Colombia. Et nous allons diffuser un reportage envoyé par Radio Nationale d'Espagne. Regardez dans les archives de notre association d'OPEAL sur l'immigration des femmes en Espagne.
La migración aparentemente tenía como protagonista al hombre, pero desde hace varias décadas la realidad ha cambiado y tiende a feminizarse como lo está haciendo la pobreza mundial. María Álvarez de Eulate ha salido al encuentro de mujeres inmigrantes que residen en Madrid.
Madrid tiene una fisonomía diferente a la de hace unos años. Si uno pasea por sus calles, siente que palpita una urbe cosmopolita. No en vano viven en la capital española ciudadanos pertenecientes a 167 nacionalidades, y la mayoría son mujeres. Son estas las que tomaron la decisión de abandonar un día sus hogares para viajar al extranjero. En el caso de Ecuador, la crisis económica provocó que ellas perdieran antes sus empleos, y por este motivo se convirtieron en pioneras de una aventura incierta, la emigración. María Amor López Espinosa es agregada cultural de la Embajada Ecuatoriana en España.
Los primeros que perdían los trabajos en esta depresión fueron mujeres, las que tenían trabajo. Y las que no tenían trabajo, y tenía el marido el trabajo, bajó el valor adquisitivo de lo que tenían tanto que decidieron que la mujer saliera a trabajar. Pero claro, no dentro del país porque no había trabajo. Entonces, decidieron dentro de la familia quién emigra para mejorar nuestra situación económica. Y la verdad, decidieron que fuera la mujer.
La mujer huye de la falta de oportunidades y toma la decisión cuando aún es joven. De hecho, la media de edad de las féminas que trabajan en Madrid es de 35 años. Muchas de ellas desempeñaban en sus países puestos como secretarias o como mano de obra en fábricas. Aquí en España suelen desarrollar labores en los sectores de hostelería y servicios y asistencia domiciliaria. Colombia es uno de los países que también exportó más mujeres que hombres, tal y como señala Carlos Clemente, ministro plenipotenciario de la embajada.
6 de cada 10 inmigrantes colombianos son mujeres. El 66% de las mujeres colombianas residentes en España tienen entre 20 y 44 años. 4 de cada 10 mujeres colombianas se ocupaban antes de venir a España como pequeños comerciantes, administrativas, operadoras de informática, secretarias o similares. 8 de cada 10 mujeres colombianas han tenido como primer empleo al llegar a España el servicio doméstico. 4 de cada 10 mujeres trabaja entre 50 y 60 horas a la semana y los salarios mensuales alrededor de 500-600 euros.
La Consejería de Inmigración de Madrid tiene muy poco tiempo de vida, pero ya destina 4.400 millones de euros a un plan de integración y ha cuadruplicado su ayuda al desarrollo en los lugares de origen de las principales comunidades inmigrantes. Este plan trata de abarcar distintas áreas como vivienda, trabajo, sensibilización, participación, educación y sanidad. Rosa Peris, directora general del Instituto de la Mujer, cree que en este sentido se han dado grandes pasos.
Yo quiero decir que el derecho a la salud es un derecho que está garantizado a todas las personas que vivan en España, afortunadamente no solo en Madrid, que efectivamente está garantizado, sino en todo el territorio, porque tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación son derechos universales que se reconocen a todas las personas con independencia de su procedencia, ¿no? Y de hecho la escolarización de los niños y las niñas se produce de manera automática.
Las mujeres como protagonistas de la inmigración latinoamericana en España han sido objeto de análisis en un seminario organizado por la Casa de América de Madrid. Una de las responsables del evento es Ana Pellicer.
Las cifras hablan y lo que nos cuentan es que llegan las mujeres primero. Después de unos años trabajando en España, acaban trayendo a sus familias y a sus maridos y a sus hijos. Entonces, se crean unos nuevos, hay unos nuevos problemas socioculturales que se les plantean a estas nuevas familias, de integración, de conciliación de estas propias mujeres, porque no nos olvidemos de que estas mujeres están ayudando a conciliar a las mujeres españolas su vida laboral, pero ¿quién les ayuda a ellas a conciliar la integración de sus hijos, ¿no? Están ayudando en el desarrollo social español cuidando a nuestros mayores, pero ¿quién cuida a sus mayores?
Carlos Clemente, ministro plenipotenciario de la Embajada Colombiana en España, cree que las mujeres inmigrantes demuestran un alto grado de compromiso y además contribuyen al desarrollo de la comunidad que las acoge.
Madrid se labra un mejor futuro gracias a la mujer inmigrante. Humanamente, no podemos desconocer que la tasa de natalidad se ha recuperado en Madrid y en España. Y no podemos desconocer que la mujer inmigrante ha permitido que la mujer española pueda armonizar su vida familiar y su vida laboral.
El problema de la inmigración femenina en España, pero la inmigración, como nos lo han dicho antes, es un problema que viene de muy lejos. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des informations sur ce continent, vaste continent latino-américain. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto. Thank you.